Studio Tamani, voici nos informations en français.
Merci d'être à l'écoute de Studio Tamani. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Les sanctions de la CEDEAO contre le Mali sont tombées. Elles visent plus de 140 personnalités, dont le Premier ministre et des membres du gouvernement, ainsi que ceux du Conseil national de la transition. Pèlerinage marial, plus de 200 personnes, dont des femmes, ont marché de Kati à Kita. Ils sont arrivés ce jeudi dans la ville. Selon les responsables de l'église, l'objectif de cette marche est de témoigner la foi chrétienne et prier également pour le Mali. Comment sauver le fleuve Niger des conséquences de l'exploitation anarchique de l'or et l'utilisation de certains produits chimiques? La question est au centre des travaux du forum de Bamako en cours depuis ce mardi. Je suis Hamsetou Touré à la présentation, à la mise en onde, Mamadi Keïta. La CEDEAO menace à exécution. Dans un communiqué publié hier soir, la CEDEAO a annoncé une sanction contre plus de 140 personnalités. Il s'agit des membres du gouvernement et du Conseil national de la transition. Mais le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, ne sont pas concernés par ces sanctions. Les détails avec Adama Amadou Aïdara.
Le premier ministre Choguel Kokala Mega et le président du CNT Malik Diaw font partie des personnalités concernées par ces sanctions individuelles de la CEDEAO. Elles sont accusées d'empêcher le retour à l'ordre institutionnel. Ainsi, à partir de ce jeudi 18 novembre 2021, les ministres et membres du CNT concernés sont interdits de voyager dans l'espace CEDEAO et leurs avoirs financiers sont gelés. Dans un communiqué, la CEDEAO indique que ces mesures visent à favoriser un retour de l'ordre constitutionnel et de l'état de droit au Mali. Le document précise que la liste pourrait changer en fonction de l'évolution de la situation. Il est donc possible d'ajouter ou de retirer des personnes de la liste. Des sources affirment également qu'une liste des proches des personnes sanctionnées serait en cours d'élaboration. L'Union européenne aussi prévoit des sanctions contre le Mali. Le cadre de sanctions sera bientôt finalisé et cela nous permettra d'adopter des sanctions contre ceux qui font obstacle à la transition. C'est ce qu'a déclaré il y a quelques jours le haut représentant aux affaires étrangères et aux politiques sécuritaires de l'Union européenne, Joseph Borrell.
Sur le même sujet, nous ne sommes pas des touristes et nous n'avons pas d'argent à l'étranger. C'est la réaction de Adama Diara d'Iben Le Cerveau face aux sanctions de la CEDEAO. Pour lui, le Mali est assez grand pour assurer la mobilité des membres du CNT. Cela leur permettrait de rester aux côtés des communautés qu'ils servent, a-t-il déclaré. Il est au micro de Arkia Touré.
Il faut savoir ce que l'on veut. Nous sommes venus aux affaires suite à une révolution. Et nous voulons que la libération de la patrie. Nous ne sommes pas des touristes, nous n'avons pas d'argent. À plus forte raison, les garder à l'étranger. La priorité pour nous, c'est d'être en contact permanent avec les Maliens et recueillir leurs préoccupations majeures pour pouvoir orienter les actions de la sécurité, de la justice et de la refondation. Les raisons fondamentales pour lesquelles nous sommes là. 1 241 238 km², c'est déjà trop vaste pour nous et nous estimons que nous allons mieux nous promener au Mali, donc pour être à l'écoute du peuple malien, pour mieux laisser. C'est la raison pour laquelle nous sommes là.
Toujours sur le même sujet pour des politologues, ces sanctions infligées aux personnalités maliennes sont à la fois une dérive stratégique et diplomatique de l'organisation sous-régionale, mais aussi une plaie dans la cohésion de ses membres. Pour Boubacar Boukoum, la CEDEAO aurait pu aider le Mali à sortir de cette crise au lieu de chercher à l'enfoncer. Il est joint par Sita Sidibé.
La CEDEAO est aujourd'hui dans une posture de déstabiliser cette transition au lieu d'accompagner réellement le peuple malien.
Pourquoi ces sanctions n'ont pas ciblé Assimi Goïta et le ministre des Affaires étrangères?
C'est une stratégie de division. Pourquoi vous voulez, si vous empêchez à une famille de manger, est-ce que vous n'avez pas sanctionné le chef de famille? Assimi a besoin de son gouvernement pour travailler, il a besoin de son organe législatif pour travailler. Et si vous supprimez ces deux éléments, est-ce que vous avez besoin de parler de lui en tant que tel?
Mais est-ce qu'il y a une voie de recours pour ces personnes ciblées?
Maintenant, si la CEDEAO elle est intelligente et qu'elle est dans l'optique d'avoir des solutions, c'est d'engager un dialogue constructif avec la transition. Ça, c'est de l'intelligence. Ce n'est pas de brandir les murs, ce n'est pas de penser qu'on peut effrayer un pays comme le Mali.
Alors, mais à quoi peut-on s'attendre prochainement?
Si les sanctions ne sont pas levées, ça veut dire que si Assimi Goïta ne prend pas ses responsabilités, c'est le pays qui va aller dans une crise encore.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Autre sujet, après la libération de l'artiste Amadou Kébédi d'Orkeb et son compagnon, y a-t-il encore de l'espoir pour la libération des autres otages retenus au Mali? Ils sont plusieurs personnes encore introuvables au centre et au nord du pays. Les autorités maliennes réaffirment leur volonté à obtenir la libération de toutes les personnes retenues en otage sur le territoire malien. Sékou Gadjigo.
Les journalistes Amadou Nialibouli, Moussa Diko et Olivier Dubois sont toujours aux mains de leurs ravisseurs. Ils ont été enlevés respectivement en 2020 et 2021. Sont également retenus en otage le sous-préfet de Farako, Ali Cissé, et le préfet de Gourmararos, Drissa Sanogo. Les deux administrateurs civils ont été capturés en 2019 et 2020. Ils n'ont toujours pas été libérés malgré les nombreuses manifestations et mouvements de grève du syndicat des administrateurs civils. Libre depuis ce lundi, l'artiste Derkeb a passé plus de 3 mois aux mains des groupes armés terroristes. Le jeune rappeur et 2 autres membres de son équipe avaient été enlevés par des hommes armés alors qu'ils se rendaient à Gourmararos dans la région de Tombouctou pour un spectacle en faveur de la paix. Sa libération a été un soulagement pour sa famille, ses fans et le monde de la culture. Quelques semaines auparavant, la sœur colombienne Gloria Cecilia Narvaez a été elle aussi libérée après plus de 4 années de captivité.
Je l'annonçais tantôt dans les titres, la ville de Quito a accueilli ce jeudi 18 novembre 2021 les pèlerins marcheurs. Partis de Cati lundi dernier, les pèlerins sont arrivés après 72 heures de marche dans la ville où débute ce samedi le pèlerinage. Selon ces fidèles catholiques, cette étape, bien que difficile, est le témoignage de la foi chrétienne. Notre correspondant Fodemoussa Diakité était à leur accueil.
C'est aux environs de 10 heures que les marcheurs sont arrivés à la paroisse de Quito. Plus de 200 personnes, dont des femmes, ont fait ce parcours de Kati à Quito. Une étape de foi qui s'est bien passée malgré quelques difficultés, nous dit Vincent Zerbo, membre de l'organisation.
Le parcours, ça a été un peu difficile, sachant que quitter Kati, l'ennemi arrive à Quito le jeudi matin. Ça n'a pas été facile, comme c'est une marche de foi. Donc, avec les étapes, les obstacles à franchir, ça n'a pas été facile. Mais nous rendons grâce à Dieu, nous sommes bien arrivés à Quito.
Cette marche de pénitence consistait, au-delà des intentions personnelles, de prier également pour le Mali, affirme Vincent Zerbo, membre de l'organisation.
Pour nous, c'était une marche de foi et de pénitence. Voilà, chacun a quitté chez lui avec ses intentions personnelles. Et au cours de l'autre, nous avons prié pour le pays, pour nos autorités religieuses coutumières, pour les autorités administratives et politiques.
L'arrivée des pèlerins marque le début de cette 50e édition du pèlerinage marial de Quito, affirment les organisateurs de Quito, Fodemoussa Diakité, pour Studio Tamani.
L'exploitation anarchique de l'or et l'utilisation de certains produits chimiques sont des pratiques parmi tant d'autres qui nuisent à la qualité des cours d'eau. La gravité de la situation pousse certains à se questionner sur l'avenir même du fleuve. C'est pourquoi le thème retenu cette année pour le forum de Bamako porte sur la dégradation des cours d'eau par l'orpaillage. Pendant 3 jours, les participants vont débattre de ces différents problèmes et faire des propositions concrètes. Les travaux ont débuté ce mardi des hautes études de management IHM. Les détails avec Issa Oumar Togola.
Pour Abdoulaye Koulibaly, président du forum de Bamako, l'heure est à la mobilisation pour sauver les cours d'eau des mauvaises pratiques, de l'attribution anarchique du permis d'exploitation de l'or à la pollution des cours d'eau par le dragage et d'autres activités humaines.
La pollution par des produits tels que le mercure, le cyanure, des cours d'eau partagés, en violation des accords internationaux signés et ratifiés par notre pays. Il est temps de prendre conscience, parce qu'il va de l'avenir de la nation.
Le dragage sur le cours d'eau est interdit au Mali, mais ces pratiques persistent souvent avec la complicité de certaines autorités. Au cours de son intervention, Lamine Seydou Traoré, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, affirme que les mesures sont en cours pour mettre fin à ce fléau.
Ce qui s'est passé, c'est que depuis janvier 2020, il y a vraiment une lutte contre ce phénomène, en tout cas du dragage, en collaboration d'ailleurs avec le ministère de l'Environnement et le ministère de la Sécurité.
Quant au groupement des exploitants de l'or, il s'engage à respecter les résolutions issues de ce forum. Mamadou Samaki est le président du dit groupement.
Je peux donner ici l'assurance que le groupement va s'approprier des recommandations et des conclusions qui sortiront de ce forum.
Pour rappel, l'exploitation artisanale de l'or existe au Mali depuis longtemps. Ce forum a pour objectif de faire des propositions pour encadrer le secteur et protéger l'environnement.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
À présent, un tour en région. Le village de Kandia, dans la commune rurale de Diakon, Soroma, a désormais un château d'eau. Les travaux de construction ont pris fin ce samedi 16 novembre 2021. Toutefois, l'extension est toujours en cours pour mettre les fontaines dans les maisons. La construction de cette infrastructure va réduire la pénurie d'eau potable dans la localité, affirment certains habitants. Ce château a été financé par les ressortissants et la jeunesse du village à plus de 10 millions de francs CFA selon des sources locales. Nous recevons à présent Mariam Maïga pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Mariam.
Bonsoir Hamsatou Gogo Touré.
Quel est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui?
Alors ce soir, nous allons débattre de la sécurité avec comme thème terrorisme. Quelle piste pour sortir de la crise? Pour en parler, nos invités sont au nombre de trois. Kadiatou Keïta, chercheuse. Brima Mamadou Kone, politologue et enseignant-chercheur. Au téléphone, nous avons Ibrahim Tembeli, ancien élu et personne de ressources au centre du Mali. Je rappelle que ce numéro du Grand Dialogue est réalisé en partenariat avec le programme d'engagement civique PEC.
Merci Mariam et bon débat. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.sudotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme via mot 37 321. C'est la fin de ce journal, mais restez à l'écoute dans un instant, le magazine Tous les enfants du Mali. Sudotamani. Au centre hospitalier universitaire Gabriel Touré, le département de la pédiatrie s'occupe de la prise en charge des nouveau-nés. Les responsables de ce service indiquent que plus de 4000 bébés y séjournent chaque année, dont 50% sont des prématurés. Ils déplorent par ailleurs le taux élevé de mortalité de ces bébés qui tourne autour de 41%. Et cela malgré les efforts du personnel, regrettent certains parents. C'est dans ce contexte qu'est célébrée la journée mondiale des prématurés au Mali ce mercredi 17 novembre 2021. Le magazine Tous les enfants du Mali de cette semaine s'est intéressé au sujet, une réalisation de Dramane Maïga.
Tous les enfants du Mali, le magazine des enfants.
Ces cris de bébés résonnent toute la journée dans ce département de prise en charge des néonatales. L'inquiétude se lit sur le visage des parents. Les mamans impuissantes patientent car le personnel est débordé. Le professeur Boubacar Togo est le chef du département de la pédiatrie. Il déplore le nombre de bébés qui meurent chaque année dans sa structure.
Les prématurés comptent pour à peu près 50% de l'ensemble des nouveaux-nés hospitalisés dans le service de néonatologie du chercheur Gabriel Touré. Chaque année, en moyenne, nous hospitalisons 2000 prématurés. Le taux de mortalité tourne autour de 40%. C'est-à-dire qu'un peu moins de la moitié des prématurés hospitalisés décèdent. Donc c'est un gros problème de santé publique.
Ce taux de mortalité est lié à plusieurs facteurs, notamment un manque de plateau technique adéquat, souligne le professeur.
La moitié décède parce que nous ne disposons pas du plateau technique nécessaire, pas également des ressources humaines suffisantes pour pouvoir prendre en charge ces prématurés. Il faut un soignant pour deux ou trois prématurés, c'est ce qui n'est pas actuellement le cas chez nous. Il faut des respirateurs, il faut des appareils de monitorage, il faut le laboratoire pour pouvoir prendre de façon adaptée, de façon efficace, tous ces prématurés afin de permettre leur survie.
Outre les difficultés, certains parents sortent soulagés de ce séjour qui peut s'étendre à un mois ou plus. Ils témoignent leur satisfaction de la prise en charge.
Notre bébé souffrait beaucoup à sa naissance, mais aujourd'hui, nous remercions Dieu.
Lors de notre séjour, nous n'avons eu aucune difficulté. Nous sommes heureux.
Les bébés souffraient beaucoup. Nous pensions même qu'ils n'allaient pas survivre. Mais les docteurs nous ont aidés. Le bébé a été 4 fois dans la couveuse.
Pour les responsables des départements de la pédiatrie, il faut rendre plus vivante cette journée des prématurés au Mali. À travers des activités de sensibilisation autour des consultations consultation prénatale CPN et la prématurité.
C'était le magazine Tous les enfants du Mali.